Thomas Bastien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de l'éducation et de l'action culturelle au Musée des beaux-arts de Montréal. Et on parle d'une nouvelle qui a retenti il y a de ça quelques jours, c'est-à-dire notamment l'ouverture de ce nouveau pavillon pour la paix, Michael et Renata Ornstein, mais aussi de l'Atelier international d'éducation et d'art-thérapie, Michel de la Chenelière. Qui vient affiner cette mission ou ce désir du Musée des beaux-arts de Montréal, c'est-à-dire de continuer un rôle d'éducation auprès du grand public. En quoi un musée a ce rôle d'éducation et d'accompagnement du mieux-être des gens,
oui,
Thomas?
Hein. Alors, on a toujours eu l'impression, en fait, que les musées avaient une mission unique jusqu'à maintenant, qui était de préserver, de valoriser des œuvres d'art.
Ouais.
Mais on se rend compte, en fait, que dans notre brûlante actualité, le musée a bien plus que ça comme rôle à jouer. En fait, c'est un musée, en fait, qui doit refléter aussi les valeurs de sa société. Et les valeurs de notre société passe à travers l'éducation, passe à travers le mieux-être, passe à travers l'inclusion, l'accessibilité, et ce sont des valeurs en fait que le musée défend à travers différents programmes qui touchent en fait chaque année plus de 300 000 participants tout de même.
Mm-hmm. Et à travers des ateliers, dont des ateliers d'art-thérapie, bien sûr, c'est ce qui m'intéresse beaucoup au cours de cette discussion, Thomas.
Oui.
En quoi l'art-thérapie peut aider vos visiteurs et comment vous allez articuler ces ateliers-là au Musée des beaux-arts?
Alors, c'est très intéressant parce que l'art-thérapie, ça fait plusieurs années, en fait, qu'on travaille avec des art-thérapeutes. Des art-thérapeutes, en fait, qui accompagnent, en fait, les médiateurs du musée et l'ensemble de nos équipes pour, justement, développer des activités sur mesure. Alors, on travaille avec des jeunes femmes, en fait, qui ont des problématiques de santé en termes de corps. Donc, on parle de l'anorexie. On parle avec des jeunes qui ont des problématiques du langage. Donc avec du bégaiement. On en a plusieurs d'exemples comme celui-ci et en fait au cours des dernières années en fait on a vraiment développé toute une expertise. Alors comment ça se déroule au musée? Comme je vous le disais en fait on a des médiateurs qu'on appelle aussi des éducateurs et ces médiateurs et ces éducateurs-là en fait rentrent vraiment en contact avec des organismes qui ont des clientèles spécifiques. On travaille avec l'Institut Douglas, on travaille avec Raymond Devoir. On travaille en fait avec une diversité en tout et pour tout. Chaque année, il y a 450 organismes socio-communautaires qui font appel à nous, au musée. Et ces organismes-là, en fait, viennent avec leurs spécialistes. Donc, on a parfois des art-thérapeutes, parfois on a des médecins, parfois on a aussi des infirmiers. Et on travaille tous ensemble, en fait, dans une même problématique qui est le mieux-être des personnes qui viennent au musée.
Ouais. C'est une façon aussi, Thomas, pour le grand public de s'approprier à quelque part la culture, les arts visuels. Parfois, on a l'impression, peut-être pour certaines personnes, « Ah, ça, c'est pas pour moi. J'ai pas cette éducation, cette culture-là. Je ne vais pas comprendre. Ce n'est pas ma place. » Mais lorsqu'on prend une œuvre, un tableau, par exemple, et que l'on explique que ce soit les changements climatiques ou encore certains phénomènes scientifiques, on donne en fait l'accès à tout le monde. Et c'est un peu ce que vous voulez faire au Musée
oui.
des beaux-arts.
En fait, on parle d'un musée qui, il y a plusieurs années, était un musée élitiste. En fait, c'est la vision des musées, hein, de manière globale. On a cette vision élitiste, c'est-à-dire, je rentre dans un musée, je me sens pas bien. Je me sens pas bien parce que il y a des codes à apprendre pour déchiffrer des œuvres d'art. Mais on est vraiment dans un musée qui devient humaniste, c'est-à-dire, je peux, personne qui n'y connaît pas grand-chose en œuvres d'art, prendre du plaisir au musée, me promener dans les œuvres d'art et faire en sorte que les œuvres, même si je ne connais pas l'histoire, apprendre, découvrir en fonction de thématiques, en fonction de différents projets en fait qui sont développés au musée. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de rendre accessible cet art-là et de faire en sorte aussi que toutes les personnes qui viennent, peu importe en fait leur culture ou peu importe en fait le milieu dans lequel elles vivent, elles arrivent à vivre une belle expérience au musée.
J'ai pu lire aussi, Thomas, qu'il pourrait y avoir des consultations médicales au sein même du Musée des beaux-arts de Montréal. Quel genre de consultations? consultation ou de prescription on pourrait avoir en allant chez vous?
Ah ben, en fait, comme on le disait initialement, en fait, c'est le musée, c'est vraiment un écosystème dans lequel on travaille à 360 degrés. Donc, on est en collaboration avec des art thérapeutes, des médecins, des infirmières, des médiateurs du musée. Et quand nous, on veut travailler en fait sur un programme spécifique qui est en lien avec une prescription, comme vous le dites, le terme n'est pas bon parce qu'on n'est pas vraiment dans le milieu en tant que tel, mais ce qu'on veut faire en fait, c'est que à travers les nouveaux espaces qu'on a au musée, on a en fait un espace qui est un bureau privé en fait dans lequel des art thérapeutes ou des médecins vont pouvoir rencontrer en fait des personnes qui font partie de projets spécifiques, puissent les rencontrer dans des espaces comme ceci. On est vraiment en développement de ce projet là et c'est un projet qui va évoluer en fonction en fait des personnes qui vont se joindre à notre équipe. On a un art thérapeute qui se joindra très prochainement, on est en train d'en chercher un. Je vous dirais c'est en train d'évoluer, mais encore une fois on le fera évoluer en fonction de la réponse des participants et en fonction aussi du bien-être de chacun d'entre eux.
Oui. On a parlé de différentes clientèles, des jeunes filles qui vivent avec des troubles alimentaires, personnes plus âgées qui vivent avec la maladie d'Alzheimer. Le musée, c'est aussi un lieu pour les enfants. On a parfois tendance à oublier parce qu'on associe le musée au silence, à des œuvres délicates, de grande valeur. On ne veut pas brusquer avec un enfant qui a tout plein d'énergie, mais on peut commencer tôt à initier l'enfant à ses visites au musée, ça peut faire partie de son développement.
En fait, c'est à mon avis l'une des plus belles choses du musée, c'est que c'est un endroit qui fait du bien à la fois au cœur, au corps et à l'esprit. C'est un endroit, en fait, où on peut se dépenser parce que marcher au musée, c'est un défi. C'est un endroit où on peut regarder des œuvres d'art, réfléchir par rapport à soi-même, discuter avec des gens, donc un lieu social. C'est un lieu de développement aussi, en fait, d'apprentissage qui est extrêmement important. Donc, et c'est un lieu qui est à l'extérieur de l'école aussi. Donc, c'est un lieu d'ouverture aussi, de découverte, un lieu architectural extrêmement fort. Donc, on le voit, en fait, il y a plusieurs études qui le montre au niveau international, que premièrement, en fait, l'accès à la culture et plus particulièrement, en fait, l'accès aux arts visuels permet de diminuer, en fait, le risque de décrochage scolaire. C'est un endroit incroyable aussi pour développer des liens sociaux très forts. C'est un endroit aussi qui est un lieu de mémoire, mais aussi de partage de culture.
Je dois vous arrêter ici, Thomas, mais on a vraiment envie d'aller vous visiter, Thomas Bastien, chef de l'éducation et de l'action culturelle au Musée des beaux-arts de Montréal, MBAM.qc.ca. Merci, Thomas.
Merci.
Bye-bye.